En 2003, j'ai vécu une expérience étonnante. J'accompagnais un groupe de bénévoles à un projet en Thaïlande, dont certains sont susceptibles d'écouter cette web diffusion aujourd'hui, lorsque nous avons changé d'avion à l'aéroport de Narita à Tokyo. Narita dessert 45 millions de passagers par an et c'était inondé de gens. Nous sommes entrés dans une scène qui semblait provenir d'un film de science-fiction. La majorité des milliers de passagers que j'ai vus portaient des masques chirurgicaux. À ce jour, je n'avais jamais vu autant de gens masqués. Des avions entiers ont vidé les passagers asiatiques dont chacun portait un masque. C'était pour moi surréaliste. Comme j'étais là à Narita, j'ai rencontré quelqu'un de façon inattendue. En fait, je ne l'ai pas reconnu immédiatement, mais c'était quelqu'un qui allait changer ma vie. Mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite. En 2003, voyez-vous, a eu lieu pendant l'épidémie de SRAS qui s'est répandue de 2002 à 2004, causée par un virus du SRAS-CoV-2, le même virus qui fait l'actualité, bien qu'il affecte les gens différemment aujourd'hui. À cette époque, il a infecté environ 8000 personnes dans 28 pays, faisant environ 800 morts. Et la différence microscopique électronique dans le virus est minime. Elle a conduit la mortalité que nous observons dans les nouvelles maintenant. Comme Ebola a éclaté de temps en temps en Afrique, j'ai parfois été aux abords des épidémies. Au Congo, à cause de ça, je me suis intéressée de plus en plus à ces maladies. Un jour, je me suis retrouvée à la frontière du Libéria et du Guinée de 2013 à 2016 lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. En fait, j'ai visité une clinique du centre de commandement de Mans, en Côte d'Ivoire, mise en place par l'OMS au cas où Ebola franchirait les frontières, ce qui n'a heureusement pas été le cas, car nous avons de nombreux frères dans cette région. L'été dernier, j'étais à la frontière rwandaise-congolaise pendant l'épidémie d'Ebola là-bas, qui est toujours en cas. Je passe, quand je suis en Afrique, souvent devant des caméras dans des aéroports qui mesurent ma température alors que je passe. Elle prend la température de tous les passagers afin de prévenir les maladies comme l'Ebola et d'autres maladies. Alors, et après un nombre d'années, j'ai oublié le nombre de fois où je suis arrivée, j'ai perdu le compte du nombre de fois que j'ai dû déclarer à mon arrivée en Afrique ou d'Afrique en Europe où je suis restée, comment je peux être contactée, sur quel siège je me suis assis dans l'avion, au cas où il y aurait une épidémie et qu'on voudrait contacter ceux qui se trouvaient dans l'avion. Probablement le plus exotique de tous ces cas, j'ai assisté au service du sabbat à seulement 6 km de plusieurs cas actifs d'Ebola. C'était à Dallas, au Texas, en 2014. Cela illustre la façon dont les choses ont changé dans le monde au cours des dernières décennies et comment les problèmes de santé, les problèmes qui autrefois restaient éloignés pour bon nombre d'entre nous, se rapprochent de chez nous. Ils arrivent de façon inattendue et soudaine. Beaucoup ont déclaré à quel point il aurait été difficile il y a quelques semaines d'imaginer que nous serions là où nous en sommes aujourd'hui. Cette scène étrange à Tokyo a été mon introduction à celle que vous rencontrez maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait, que nous rencontrerons tous plus personnellement dans les années, que nous connaîtrons tous plus personnellement dans les années à venir. Je pars du 4e cavalier de l'Apocalypse. Je l'ai côtoyé de temps en temps au fil des ans. Nous faisons tous de même aujourd'hui. Nous connaissons ce cavalier sur le cheval pâle, mais nous ne le connaissons pas encore aussi bien que nous le ferons. C'est ce que j'aimerais que nous examinions ensemble pendant quelques minutes aujourd'hui. À cause, en particulier, des voyages que je fais dans plusieurs pays où ont lieu, où se trouvent différentes maladies. Dans le chapitre 6, c'est l'endroit où Jésus-Christ commence à ouvrir les sept sceaux prophétiques du livre de l'Apocalypse. C'est une clé importante pour comprendre la signification de ces sceaux et de les comparer aux signes que Jésus a mentionnés dans Matthieu 24. Si vous n'avez pas ce lien écrit dans votre livre, dans votre Bible, puis-je vous suggérer de le faire? Encore une fois, si vous n'avez pas écrit ce lien, à côté du chapitre 6 dans Apocalypse, je vous suggère de le faire, de mettre Matthieu 24 à ce côté. Dans Apocalypse 5, Jean a montré dans une vision un parchemin avec sept sceaux dessus. Et il est intéressant de noter dans Apocalypse 5, versets 1 à 5. Excusez-moi, je ne suis pas là. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. C'était l'expérience de Jean. Dans cette vision, parfois, lorsque nous dormons, nous avons l'impression de savoir ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. Et dans son rêve, dans son songe, dans cette vision, Jean a compris qu'il était très important de comprendre ce qu'il y avait dans ce livre. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Il voulait savoir ce qui se trouvait dans ce parchemin. Et une fois qu'il a eu cette expérience, l'un des anciens lui a dit, verset 5, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Alors nous voyons à quel point cette connaissance est importante pour comprendre l'avenir. Alors, voilà l'introduction pour ce qu'on va lire au chapitre 6, en commençant verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens, je regardais voici par un cheval blanc. » Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Donc, les trois premiers sceaux ici ont été expliqués pour nous. Gardez votre droit dans Apocalypse 6 et reportez-vous maintenant à Matthieu 24, qui nous donne plus d'explications sur ce que ces versets veulent dire. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis Christ, et séduiront beaucoup de gens. » Le cheval sur le le cavalier sur le cheval blanc. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, on voit ici qu'il y aura la famine. Donc, les trois premiers sceaux qui sont mentionnés dans Apocalypse sont les trois suivants. Premièrement, la tromperie religieuse. Deuxièmement, la guerre. Et troisièmement, la famine. Les cinq dernières années, il y a eu 20 guerres qui ont tué 1 million de personnes. Et pourtant, ce n'était pas la période la plus sérieuse dans l'histoire de l'homme. En 2017, l'ONU a officiellement déclaré que la famine était revenue en Afrique, avec environ 20 millions de personnes menacées de mort par la famine au Nigeria, au Soudan du Sud, au Yémen et en Somalie. Nous voyons dans Matthieu 27 que la peste est mentionnée. Si nous retournons à Apocalypse 6, nous verrons le quatrième cavalier, la peste, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà ici le quatrième cavalier de l'Apocalypse. Et l'explication de Jésus nous est donnée dans Matthieu 24. La peste, la mort et Hadès l'ont suivi. Nous ne savons pas si Hadès est sur le même cheval, sur le dos du même cheval ou sur un autre cheval, mais il est écrit que le séjour des morts l'accompagnait. Le mot pâle en grec est chloros. La racine de notre mot chlore. Le chlore est un élément chimique, numéro 17 sur la table périodique. Un gaz de couleur jaune verdâtre à la température ambiante. Et donc le chlore est jaune verdâtre. Cela signifie une couleur jaune vert pâle. La couleur que l'on voit parfois sur certaines plantes. Pour les êtres humains, si quelqu'un a une teinte jaune ou verdâtre sur la peau, il ne va pas bien. C'est la couleur de la maladie. Vous avez entendu parler de la maladie appelée jaunisse, qui vient du mot français pour jaune. Certains commentateurs font le lien avec la couleur d'un cadavre qui pâlit et se décolore. Donc, après... Nous voyons donc que la famine apporte la peste après. Mais maintenant, en Luc 21:9, il est écrit « Ne vous effrayez pas, car ces choses doivent arriver en premier, mais la fin ne viendra pas immédiatement. » Nous avons assisté à des déceptions religieuses et à des épidémies de guerre, de famine et de maladie au cours des 2000 dernières années. Ce sont les débuts des peines. Pourtant, ils sont présentés dans le contexte de la fin des temps et du retour du Christ. Nous savons donc qu'il y aura une intensification de ces choses, plus nous nous rapprochons du temps du retour de Christ. Lisons maintenant ce qui est écrit dans Apocalypse 6, verset 8. Je regardais, voici par un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Alors, la peste ici est mentionnée, elle est associée à la guerre et à la famine. La peste suit souvent la famine, elle est souvent le résultat de la guerre. Souvent, la famine n'est généralement pas due au manque de nourriture et se produit lorsque la nourriture ne peut pas être distribuée car les mécanismes de distribution ont été perturbés. La grippe espagnole de 1918 à 1920 s'est propagée en grande partie à cause des concentrations de millions de soldats dans des quartiers proches et leur transport à travers le monde. Mais que veut dire la bête de la terre? Cela fait référence à d'autres prophéties, à des prophéties de punition mentionnées dans l'Ancien Testament. Gardez votre place en Apocalypse et veuillez vous reporter à Ézéchiel 14 maintenant. Dieu explique clairement que cela est dû à la désobéissance des gens. Ézéchiel 14, verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoi que j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, Dieu leur dit qu'il va envoyer ces quatre choses ensemble, la guerre, la famine, les bêtes féroces et la peste. Et quand on voit ce qui se passait à l'époque, les gens avaient peur de certaines bêtes féroces comme les ours, les lions. Les loups, ce sont des jugements, des punitions que Dieu a prédits pour Israël. Ce que nous lisons dans Apocalypse montre que peut-être que les animaux pourraient devenir un gros risque à l'avenir. Autrefois, la Bible, c'était le cas, et la Bible rapporte des exemples où les gens risquaient d'être tués par des lions, des ours et des loups. Cela fait-il référence à une société qui s'effondre au point que les carnivores deviennent une menace majeure? C'est souvent le cas après la guerre, la famine et la maladie, où il y a moins de personnes vivantes et plus de cadavres gisant sans sépulture. C'est une prophétie. Aujourd'hui, j'ai lu que les chiens tuent environ 35 000 personnes par an dans le monde. Les serpents tuent environ 100 000 personnes par an. Et si la société s'effondrait, il y en aurait plus. Je ne sais pas si cela est prévu dans la prophétie, mais les animaux les plus dangereux du monde aujourd'hui sont les insectes. Les moustiques tuent environ 750 000 personnes par an. Si les gens s'affaiblissaient, si le système médical ne fonctionnerait plus, ces maladies, ou le nombre de ces maladies, pourrait exploser. Reportons-nous maintenant à Apocalypse 6, 8. Il est écrit... que cela s'étendrait sur un quart de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est difficile d'imaginer que cela représente un quart de la surface géographique, comme l'Asie ou l'Afrique. Il semble clair qu'il s'agit d'un pourcentage de la population. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Du moins, à ce que nous sachions. Où un quart de la population meurt. Si nous réfléchissons à la peste noire, la peste bubonique en Europe, elle a tué à peu près la moitié de la population européenne dans les années 1400, mais ce n'était que l'Europe, pas le monde entier. Pensez à cela, ce qui est décrit ici sera pire. Cela pourrait représenter 2 milliards de personnes qui mourraient, un quart de la population de la Terre. Alors que nous traversons la pandémie de COVID-19, réfléchissons à ce qui va arriver. Les choses vont s'aggraver avant la fin des temps. Je vais vous citer quelques référence de plusieurs livres. L'un d'entre eux s'intitule « Influenza », écrit par John Barry. C'est un excellent livre qui donne à réfléchir sur la grippe espagnole de 1918 à 1920. Je l'ai commandé par Amazon, mais je ne pense pas qu'il est disponible. La plupart des estimations placent le nombre de morts entre 50 et 100 millions de personnes. De la mi-septembre au début décembre 1918, plus de la moitié des gens sont décédés. Cela veut dire entre 25 et 50 millions de personnes sont mortes en quelques mois seulement. Ce qui était surprenant, c'est que la plupart, en fait, la moitié des personnes qui sont mortes étaient des jeunes personnes. Leur système immunitaire leur a fait du mal, en fin de compte, ce qui est rare. C'était très grave. C'était si mauvais qu'en 1918, à Philadelphie, des prêtres ont conduit des chariots tirés par des chevaux dans la rue de la ville, appelant ceux qui étaient à huis clos à faire sortir leurs morts. C'est quelque chose qui s'est passé au Moyen-Âge, mais ça s'est aussi passé en 1918. Ça ne fait pas si longtemps. La grippe porcine H1N1 a été une pandémie de 1909 à 2010. Elle n'a pas tué beaucoup de personnes. Mon ami et collègue David Baker est presque sûr, presque certain qu'il l'a attrapé, mais il l'a survécu. Il l'a attrapé lorsqu'il était en Asie. Mais c'est la même souche que la grippe espagnole de 1918. Juste une légère mutation. Une légère mutation peut rendre une pandémie plus grave ou un peu plus supportable. Dernièrement, le VIH ou le sida a tué 32 millions de personnes depuis 1960. Selon l'OMS, en 2016, environ 500 000 personnes dans le monde ont développé une tuberculose multirésistante. Il n'y a rien pour la soigner. Les autorités sanitaires estime que les menaces les plus importantes pour nous sont la zoonose. La zoonose, en fait, COVID-19 est une maladie zoonotique. Il s'agit d'une maladie, généralement d'un virus qui vit dans une population animale, puis qui saute de temps en temps chez l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-2, celui qui crée encore des problèmes. C'est une maladie zoonotique. D'où vient-elle? Un poisson? De chauve-souris? La source est inconnue. Ebola est une zoonose. Quelqu'un mange un serpent ou une chauve-souris et la maladie se transmet. Après toutes les études qui ont été faites, il n'est pas encore clair qui est à la souche de cette maladie. Il y a un livre très important qui a été écrit qui s'appelle The Hudson par Richard Prestune. Il a été écrit environ 5 ans après Ebola au Zaïre. C'est une fièvre hémorragique. Hémo veut dire sang. Donc, c'est une maladie, il y a beaucoup de sang. Certains virus sont si virulents qu'ils tuent jusqu'à 100% ou plus de ses victimes. Ils tuent rapidement et horriblement. La seule chose qui empêche les épis d'Ebola à plus grande échelle, c'est qu'ils tuent les gens si rapidement qu'ils ne peuvent la propager à d'autres personnes. Elle se retrouve surtout dans les jungles d'Afrique où les gens ne peuvent pas voyager loin non plus. Donc cela prévient sa propagation. Les singes peuvent contracter Ebola. Je ne sais pas si vous le savez, mais Ebola a été amené dans une clinique de recherche à Reston en Virginie, à peine sortie de Washington D.C. En Reston en Virginie, à peine sortie de Washington D.C. dans une zone de singes destinée à des expériences médicales en 1989. Lorsqu'il a été déterminé qu'il s'agissait d'Ebola, les scientifiques ont mis en quarantaine les singes infectés et les ont isolés de tous les autres singes. Et la maladie s'est propagée d'une pièce scellée à une pièce scellée. Tous les singes ont dû être mis à mort. Des gens ont également été exposés. Les autorités craignaient que cette souche qui pourrait se propager dans l'air décime la nation. Il y avait une grande crainte qu'elle allait vraiment décimer la nation. Peut-être que grâce à la miséricorde de Dieu, il s'avère que cette souche particulière d'Ebola, tout en réagissant de manière identique chez les singes et les anticorps humains, n'a pas rendu les humains malades. Bien que le virus ait été en eux. Tout ce qu'il aurait fallu, c'était une légère mutation génétique et nous aurions peut-être déjà eu des millions de morts d'Ebola. Notre journaliste, Laurie Garrett, dans son livre Betrayal of Trust, explique comment de plus en plus de problèmes de santé dans d'autres pays deviennent notre problème, car aucune partie du monde n'est à plus de 24 heures de trajet de New York lorsque les choses fonctionnent normalement. Donc, en 1994, il y a eu une flambée de peste bubonique en Inde. Des centaines de personnes ont été tuées et la situation chaotique du système de santé indien a été révélée. Un contrôle devait être mis en place dans les aéroports américains pour ceux venant de ces zones, ce qui est compliqué car la plupart transitent par d'autres pays. Cela ne fera qu'empirer. Alors, pourquoi Dieu permet-il de telles choses? Comme toujours, lorsque Dieu permet quelque chose, il essaie d'attirer l'attention des gens et les faire réfléchir. Les choses pire vont se passer si les gens ne changent pas. Nous allons nous reporter maintenant à Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14, verset 22. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Et vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leur action. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu fait tout avec une raison. L'auteur David Johnson a dit... Dépendez-en, monsieur, quand un homme sait qu'il doit être pendu dans 15 jours, cela concentre merveilleusement son esprit. En fait, la plupart des gens vivent leur vie sans réfléchir sur ce qui se passe. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils sont occupés à faire des choses qui les amusent parce qu'ils ne veulent pas faire face à la réalité. Blaise Pascal, un philosophe, a écrit quelque chose aussi par rapport au détournement. Quand je me suis parfois mis à réfléchir aux différentes distractions des hommes, aux douleurs et périls auxquels ils s'exposent, à la cour ou à la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, de projets audacieux ou souvent mauvais, j'ai découvert que tout le malheur des hommes provient d'un seul fait, qu'ils ne peuvent pas rester tranquillement dans leur propre chambre. Un homme qui a de quoi vivre, s'il savait rester avec plaisir chez lui, ne le quitterait pas pour aller en mer ou assiéger une ville. Une commission dans l'armée ne serait pas si chèrement achetée, mais qu'il est insupportable de ne pas bouger de la ville. Et les hommes ne cherchent que la conversation entre dans les jeux, car ils ne peuvent pas rester avec plaisir à la maison. Pascal a postulé, rien ne peut nous réconforter quand nous réfléchissons. Alors nous paniquons. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons peur. Et parfois, Dieu force les gens à s'arrêter, à confronter leur mentalité, la cruauté qu'ils pratiquent. Pascal a postulé que nous n'avons pas à être laissés seuls avec nous-mêmes, car nous sommes alors confrontés à la réalité de la brièveté et de la futilité de la vie. Une période de danger, de mort, cependant, incitera les gens à penser à leur vie. Maintenant, vie, espoir et vérité est inondée de demandes d'informations sur la signification de cette pandémie. Je réponds fiévreusement aux questions en français. Est-ce l'un des sept derniers fléaux? La colère de Dieu est-elle sur le point de frapper? Comment mettre ma vie en ordre? Est-ce la fin des temps? Je ne peux pas surmonter ce péché. Que dois-je faire? Et plusieurs personnes se posent des questions parce qu'ils sont forcés maintenant à s'arrêter et à réfléchir. Dans Ésaïe chapitre 38, il y a un exemple très intéressant de la maladie d'Ézéchias. Ésaïe 38, verset 1. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. » C'est étonnant. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est ce qui est le fait que Ézéchias a pris le temps de réfléchir sur la vie en général. Verset 9. « Quand dit Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. » Il était rempli d'angoisse lorsqu'il pensait à sa mort. « Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. » Remarquez qu'il a réfléchi à la vie, il a voulu faire les autres autrement. Il a pris sa vie beaucoup plus au sérieux, alors qu'il était sur le point de mourir. « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouait de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. » Parfois, la paix arrive après l'amertume et les souffrances. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Les enfants d'Ézéchias ont aussi appris la leçon d'une façon plus facile, en observant ce qui s'était passé avec leur père. Verset 20, « L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Et ce qui est écrit ici a probablement été chanté à chaque année pour le reste de sa vie. Certaines personnes ne s'arrêtent pas et ne pensent pas à la vie tant qu'elles ne sont pas contraintes par des pouvoirs indépendants de leur volonté. Par la grâce de Dieu, nous pouvons comprendre et réfléchir à ces questions importantes maintenant. Chaque jour, et nous le devrions. Nous pouvons prendre le temps maintenant pour réfléchir à ces choses. Et je vous encourage, alors que nous traversons cette pandémie, à réfléchir sur les leçons que nous devrions apprendre. Que Dieu veut-il que j'apprenne de cette pandémie? Quand nous savons qu'il y aura plus d'épidémies de pandémie, que devrions-nous faire? Je vais mentionner deux choses aujourd'hui, en espérant que vous les considériez. Premièrement, rappelez-vous nos priorités, ce qui est vraiment important dans la vie, notre relation avec Dieu. Recherchons d'abord son royaume et sa justice. Vivez une vie examinée, et non une vie non examinée, comme la plupart des gens dans le monde. Nous ne devrions pas avoir besoin de tomber malade ou de ressentir la menace de la mort pour nous concentrer sur ces vérités. Souvenons-nous des leçons que Dieu enseignera au monde à travers les épidémies de maladies à venir. Le jugement va venir. Nous avons un temps limité sur cette terre et beaucoup à accomplir. Ce sont des leçons spirituelles importantes. Alors que nous traversons des moments comme celui-ci. Deuxièmement, n'est pas aussi important, mais quand même, une certaine préparation physique pour l'avenir serait sage. Comment votre approvisionnement en papier de toilette? C'est une blague. Nous avons appris qu'il vaut mieux avoir un peu plus de réserves. Fred Kahlo appelle cela le modèle Joseph. Joseph a prévu une famine à venir. Et qu'a-t-il fait? Il a stocké de la nourriture pour la nation. Non seulement pour lui, mais pour la nation, pour sauver d'autres personnes également. Le gouvernement américain dit que tout le monde devrait avoir un plan d'urgence et des fournitures pour être autonome pendant 72 heures au moins, 72 heures au moins sans électricité et sans eau courante. Il faut prendre des précautions. Certains articles non périssables dans votre garde-manger, des aliments en conserve que vous pouvez garder, les manger avant la date d'expiration et les remplacer par des plus récents. Je suggère que nous devrions également réfléchir à la façon dont nous pourrions être au service des autres en temps de crise. Ce serait l'occasion de laisser nos lumières briller devant les hommes pour qu'ils voient nos bonnes œuvres. Et puisque nous avons une pandémie qui ne provoque pas de diarrhée et qu'il y a une fuite de papier de toilette, au cas où la prochaine épidémie provoquerait la diarrhée, faites-le plein de vaporisateur nasal. C'est une blague. Si vous ne l'avez pas déjà vérifié, jetez un œil à READY.gov/KIT. Vous y trouverez de bons conseils raisonnables et équilibrés. Combien de jours vous prévoyez est votre choix. Notre objectif ultime n'est pas la survie physique. Dans les problèmes à long terme, notre seul espoir est Dieu. Un bon cœur ne va pas nous sauver. Mais nous ne devons pas tenter Dieu en ne prenant pas certaines précautions raisonnables, de la même manière que nous achetons une assurance auto et habitation, ou que nous prenons un manteau chaud dans notre voiture en hiver. C'est la différence entre une préparation appropriée aux catastrophes et une approche frénétique de manque de foi et de survie. Le jour de Noël, en 1664, un décès par peste bubonique a été signalé dans les villes de Londres. Un autre est venu en février, puis un autre. Les décès ont été rapides, horribles et bientôt si volumineux que les funérailles à l'église n'ont plus eu lieu. Au cours de l'été, des centaines à des milliers par semaine mouraient. Les personnes infectées ont reçu l'ordre de ne pas quitter leur domicile. Beaucoup ont été embarqués et laissés pour morts dans l'isolement. Une énorme croix peinte à l'extérieur de chaque maison en proie. Tous les rassemblements de foule ont été interdits, les universités ont fermé et renvoyé les étudiants chez eux. Lorsqu'en Cambridge a fermé ses portes, un jeune homme, obsédé par les mathématiques, le mouvement et la lumière, dont le père, un alphabète, était décédé 3 mois avant sa naissance, qui avait commencé ses études à Cambridge en effectuant le travail de domestique pour des étudiants plus riches en échange de frais de scolarité, a rassemblé ses livres et retourné à la ferme de sa mère. Là, en isolement presque complet, alors que la peste détruisait d'innombrables vies et le tissu de la société, Isaac Newton a pensé un concept qui ferait sortir l'Europe du Moyen-Âge. Là, la pomme, réelle ou apocryphique, est tombée. Et, dans son esprit, est venue l'idée révolutionnaire de la gravité que le jeune homme a imaginée comme une force s'étendant jusqu'à l'orbe de la Lune, tout le long de la Terre, sans coupure ou frontière. Il entreprit de calculer cette force nécessaire pour maintenir la Lune dans son orbe avec la force de gravité à la surface de la Terre. En le calculant, par nécessité, il invita le calcul. Et il a changé le monde de la physique et la compréhension de l'humanité sur l'univers. On parle encore de physique newtonienne. Pendant la période d'isolation, c'est ce qu'il a fait. Newton reviendrait sur cette période la plus fertile intellectuellement des années de peste, notant la vérité et la progéniture du silence et de la méditation. La vérité et la progéniture du silence et de la méditation. Je garde constamment le sujet devant moi, et j'attends jusqu'à ce que les premières aurores s'ouvrent lentement, peu à peu, dans une lumière pleine et claire. Cela est écrit dans la bibliographie d'Isaac Newton, écrite par James Gleick. Nous, en tant que chrétiens, serions certainement d'accord avec Newton que la vérité est la progéniture du silence et de la méditation. Nous pratiquons la méditation chrétienne, une profonde réflexion sur les choses importantes. C'est comme cela que Dieu nous révèle sa volonté. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Ils ne veulent pas être laissés seuls avec eux, avec eux-mêmes. Ils veulent que les diversements, les jeux, les distractions, le frisson de la poursuite gagnent. Commençons déjà maintenant. Dieu attire l'attention des gens pour les faire réfléchir, pour les avertir. C'est une raison importante des épidémies. C'est en partie la raison des épidémies de maladies, de leur augmentation, de leur férocité. Je pense que nous sommes au milieu d'une répétition ou d'une pratique générale pour des choses qui devraient se produire dans les années à venir. Le quatrième cavalier monte. Je suggère que nous méditions à ce sujet dans le contexte de la pandémie actuelle et des prophéties que nous connaissons par rapport à l'avenir. Que nous réfléchissions, apprenions et nous préparions un peu physiquement, beaucoup spirituellement. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole, la vérité est aussi la progéniture du silence et de la méditation. Nous devons en bénéficier.